Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. J'accueille aujourd'hui sur In Power une personnalité difficile à présenter en quelques mots, à la fois présentatrice, autrice, créatrice de contenu, designer ou encore cofondatrice d'un restaurant. Une chose est sûre, Laurie Tillman a plusieurs cordes à son arc. Vous la connaissez peut-être de son élection à Miss France il y a maintenant 10 ans de cela, et c'est en effet par là que Laurie a démarré sa carrière. Si vous me suivez sur les réseaux, vous savez également que je ne suis pas la plus grande fan des concours de beauté. Cela dit, pour avoir rencontré Laurie plusieurs fois avant notre échange, ça m'a aussi permis de passer au-dessus des préjugés que l'on peut parfois émettre inconsciemment, et d'apprendre à la connaître en tant que personne. Et quand on apprend à la connaître, Laurie n'en est que plus inspirante. Motivée, ambitieuse, courageuse, il y a peu de projets qu'elle s'interdit de faire. À partir du moment où elle en a l'envie, elle trouvera un chemin. Que ce soit dans le business ou dans le sport, Laurie ayant réalisé de grands défis sportifs comme le Marathon des Sables, ou de nombreux raids en Islande ou encore en Laponie. Bref, je commence déjà à en dire trop, Laurie en parlera bien mieux que moi, et si l'épisode vous plaît, vous pouvez nous le faire savoir sur Instagram en partageant une story sur cet épisode, en nous taguant @LaurieTillman et @MyBetterSelf. Et si vous n'êtes pas encore abonné au podcast, vous pouvez le faire gratuitement, directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Laurie Tillman.
Ça commence vraiment là.
Bah ça commence vraiment, mais j'aime bien, en plus ça a été un peu une mise à stress.
Santé, hein. Allez. Au cidre, hein, à la Bretagne, hein. Et ça nous gagne.
Voilà, parce que comme je le disais, je ne suis pas bretonne, franchement je suis allée une fois dans ma vie.
Mais tu es amoureuse de cidre, mais ça fait plaisir.
Du cidre et des galettes.
Des crêpes, on dit dans le Finistère.
Non, alors attends, parce que...
Il y a un vrai débat.
Tu sais que je me suis posé la question avant de dire le mot, et je me suis dit, surtout Lise, ne fais pas l'erreur, tu n'imagines pas le nombre de DM que je reçois quand je dis crêpes au lieu de galettes.
Ouais, il y a un vrai débat, ça dépend des régions. En Finistère, on dit crêpe, que ça soit...
Parce que j'allais dire crêpe, tu vois.
Ouais, et ben tu avais tout bon. Lorsqu'il s'agit dans le Finistère de crêpes complètes, donc blé noir, tu sais, sarrasin, ou froment, les blanches, les sucrées, et ben c'est la même chose. Pour nous, on fait pas de distinction et je trouve ça plutôt chouette, au moins tu te trompes pas.
Bah au moins, j'allais te dire, ça fait sens avec crêperie.
Oui, tu vois, on est d'accord.
Crêpe, parce que c'est une crêperie, c'est pas une galetterie,
c'est pas con,
tu vois.
Ça. Galetterie, ça serait chum.
Ce serait donc, très laid.
Allez, on reste sur crêpe. Hein.
Voilà, et donc j'aime tellement ça que je
La prochaine, je ramène des crêpes. Je ramène le bilic. Tu vois, le bilic, c'est la plaque de cuisson où tu fais. Voilà, et je peux ramener ça.
On tient un concept.
On tient un truc.
De vidéos chit-chat autour de cuisine
de, la
de crêpes. Ouais. Parce que c'est pas un truc qui est trop compliqué à faire, donc tu peux parler en même temps, tu vois.
Le mouvement de poignet peut être un peu tendax. Mais on.
Tu m'apprendras.
Ouais.
Bon, je sais que vous êtes tous venus sur cet épisode pour entendre parler de crêpes, mais on va quand même parler d'autre chose. Laurie, est-ce que pour toutes les personnes qui ne te connaissent peut-être pas encore, tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites?
Alors, salut à tous. Salut Louise. Je suis très contente d'être là, de boire du cidre avec vous. Je m'appelle Laurie Tillman. J'ai 30 ans. Vous m'avez peut-être connue il y a 10 ans. J'ai été élue Miss France. Et aujourd'hui, je suis un peu working girl, couteau suisse, entrepreneuse, journaliste. Je bosse à la télé en tant qu'animatrice. Vous me voyez peut-être sur le service public, sur France 2 et France 3. J'ai créé une petite marque de mode éthique et responsable qui s'appelle Parisienne et Alors, que tu portes aujourd'hui. Merci.
Le haut, le bas.
Voilà.
On adore.
Franchement, trop corporate. Et je développe aussi des méthodes de bien-être que j'ai baptisées Au Top. De l'acronyme tonique organique positif, ça fait beaucoup, je suis désolée.
Non mais, c'est cool. Non mais moi je trouve ça génial parce que ça démocratise le fait qu'aujourd'hui on n'a pas à s'enfermer dans une case. Est-ce que c'est quelque chose dont tu avais conscience quand tu étais ado?
Ah non, c'est rigolo parce que sur le chemin je me suis dit est-ce qu'on va parler de ça, et je me suis aussi convaincue depuis quelques mois, une petite année je pense, que c'était ok en fait de multiplier les casquettes et que c'était pas très grave, alors que ça a souvent été un gros complexe pour moi de pas vraiment savoir, tu sais, quand on te pose la question c'est quoi ton métier, bah en fait j'en ai pas un, genre j'en ai quatre voire cinq. Et ça m'a souvent fait peur, mais si je pense et si je me repositionne 10 ans en avant, lorsque j'étais en école de commerce, que j'avais 19 ans avant que Miss France arrive dans ma vie, je m'imaginais, tu vois, je ne suis pas responsable d'achat ou travaillant dans la com avec un seul métier. Jamais j'aurais imaginé en faire plusieurs comme aujourd'hui. Et j'adore ça en fait, parce que tu t'ennuies jamais et c'est le bonheur.
C'est sûr, c'est
comme
sûr.
Toi.
C'est tous les jours un challenge, tu nous en parleras aussi. Mais c'est clair que tu n'as pas le temps de te lasser. Et c'est, je pense, ce que recherche vachement notre génération. Bon, je me suis demandé, moi, si j'allais t'en parler de ce sujet-là, mais vu que tu en parles, j'ai quand même envie d'en parler, parce que ce podcast est très transparent, très on veut du vrai. Alors, Miss France, moi, de ma position très engagée sur l'acceptation de soi, sur l'inclusivité, c'est vrai qu'aujourd'hui, me pose un petit problème parce que je trouve qu'ils font des efforts. Tu vois, il y a un vrai côté où, à mon avis, on n'est plus élu que sur le physique. Il y a une vraie dimension même d'engagement, d'intellect, enfin, d'une personne plurielle. Mais c'est vrai qu'en plus, à ton époque, j'ai l'impression, il y a 10 ans, c'était assez centré sur le physique.
Ouais.
Est-ce que toi... Enfin, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu participer? Quelle expérience t'en retires? Et peut-être quel message t'as envie de partager aux personnes qui ont aujourd'hui cet a priori? Parce que moi, tu vois, je prétends pas détenir une vérité et je suis hyper curieuse d'avoir ton avis là-dessus.
Ben, aujourd'hui, c'est hyper intéressant d'en parler, mais il y a 10 ans, en fait, on se posait pas ces questions-là. C'est bête, hein, mais il y a 10 ans, le féminisme, il y avait pas de définition pour le définir. Et en fait, on était beaucoup considérés, nous, en tant que femmes. J'essaie de regarder dans le rétro il y a 10 ans.
Non,
est-ce que
sûr.
Tu vois, t'avais ces considérations-là.
Ouais.
Donc moi, à 19 ans, je suis élue. Fraîchement, tu vois, je sors de mon école de commerce. Je viens d'avoir le bac. Et c'est vrai que quand on me propose de participer à Miss France, puisque c'est pas moi qui postule... Enfin, tout bonnement impossible, parce que j'étais trop éloignée de ce système, et tant mieux d'ailleurs, parce que c'est ce qui m'a permis, derrière, de passer une année avec les yeux grands ouverts, de devenir... un peu plus femme, parce que j'étais très garçon manqué, j'étais focus sur le surf, sur mes études que mes parents me payaient, et donc j'avais pas le droit aux soirées étudiantes. Enfin, en gros, j'étais vraiment genre la bonne élève, mais jean troué, à me cacher derrière des vêtements. Je me trouvais pas du tout jolie, enfin j'étais pas hyper à l'aise avec ça. Mais en même temps, comme on me proposait, tu vois, de faire un peu des défilés, du mannequinat, des photos, mais pour, je te parle de trucs pour le Leclerc de Brest, pour Décathlon, enfin des trucs vraiment locaux, ça me donnait confiance, mais j'étais pas hyper à l'aise avec mon 1m80, ouais. Mon image, le fait que j'étais très fine. Et ça peut paraître dérisoire, mais enfin, c'est...
Il n'y a pas de monopole du complexe.
Ouais,
moi,
exactement.
Moi, si j'en parlais, c'est bien sûr que la vie des personnes minces, c'est plus facile.
Ouais, ouais.
Mais... on n'est pas dans la peau de ces personnes-là,
voilà.
Et enfin, personne ne peut juger ce que peut ressentir quelqu'un, quoi.
Exactement. Et donc moi, j'étais pas hyper à l'aise avec ça. J'étais mieux avec une combi néoprène, d'ailleurs, parce que je trouve que ça me rajoutait un peu d'épaisseur, et j'étais bien dans ma combi néoprène et au surf. Donc tout ça pour vous dire que non, je me suis pas inscrite par moi-même, et c'est justement un jour, un photographe prenant des photos de moi pour je sais pas, Leclerc, me dit, eh bah tiens, parce que tu sais, là-bas c'est pareil, ils sont multi-casquettes. Le mec était marin, photographe, en même temps il bossait un peu pour Miss Bretagne. Et
énorme.
donc en fait il me pose la question après le shoot, mais est-ce que ça te dirait de participer à Miss Bretagne? Et sur le coup, je dis, bah, enfin, non, franchement, là, je suis en école de commerce. Le week-end, j'ai le droit de faire des photos, mais la semaine, c'est mort. Non, je n'oserais même pas en parler à mes parents, je n'oserais même pas en parler à mes potes, c'est trop la honte. Et non, je suis pas convaincue. Et le gars avait le numéro de fixe de chez mes parents, justement, à l'époque, et pose un peu ses couilles, pardon. Et je sais pas, se fait passer pour mon photographe. Et envoie les photos qu'on avait faites à l'agence, tu vois, à Miss Bretagne, là. Et je sais pas par comment ça se passe. On m'appelle sur mon téléphone fixe un lundi midi. Je suis en train de bouffer avec mon papa. Je sors d'école de commerce, j'y retourne une heure après. Et on propose de participer à ce truc, Miss Bretagne, le lendemain, à 2 heures de chez moi. Mon père est là, c'est au haut-parleur. Je dis,
sur le coup, panique,
ouais, tu paniques, en même temps t'es flatté, c'est très bizarre, et t'oses pas dire non. Donc du coup je raccroche, je regarde mon père, je dis, bah, qu'est-ce qu'on fait? Oh bah c'est trop cool, je te fais un mot, demain tu loupes. Mon père me dit, tu loupes les cours, tu vois. Mais très compétiteur, mon père, hein, on a un passif de sportif et tout. Et j'ai l'impression qu'il le voit un peu comme une compétition sportive, en mode, oh bah si, je vais t'amener, c'est rigolo, et puis on verra ce que ça donne. Bref. C'est très long, pardon. Hein,
mais non, mais j'adore les anecdotes.
L'histoire est très longue. Oh là là, ouais. Là, et comme on est dans un podcast, il n'y a pas l'image, on a envie de blablater. Donc, sorry. Et donc, je me présente à ce truc-là avec mon jean troué, mon chèche autour du cou, mes Converse. Toutes les meufs sont pimpées, mini-jupes, talons de 12. Et là, je me dis, OK, qu'est-ce que je fous là? Vraiment, enfin, je pense que c'est...
erreur de casting, quoi.
Ah ben ouais, erreur de casting, vraiment. Évidemment, le truc fonctionne. Je suis élue le lendemain, bah, partout dans le Télégramme, le West France. Donc, je deviens Miss Bretagne et 15 jours après, je me barre à Miss France. Donc là, je me fais chambrer par toute l'école de commerce. Enfin, c'est l'enfer parce que j'en ai parlé à personne. Et je sais pas, il y a un truc, une espèce de pression où tout de suite, en fait, ton image change. Ouais. Genre, tu es la meuf cool, sportive, que personne n'a vue. Et là, d'un coup, bah, tu deviens un peu l'interrogation générale de toute ton école. Et j'ai pas trop kiffé ce moment. Donc, vite, je suis partie à Miss France. De toute façon, j'avais pas le choix. Je pouvais pas faire marche arrière. Et en fait, j'avais pas du tout envie de devenir Miss France pendant toute l'aventure. Je pense que j'étais un peu déconnectée de tout ça. J'arrivais avec mes colliers en bois, mes robes Rip Curl multicolores. J'avais pas de talons. Enfin, j'avais pas eu le temps de me préparer. Et tant mieux. C'est trop cool. Les meufs ont été trop sympas dans ma promo. Je parle de ça il y a 10 ans. Hein. Il y avait pas de réseaux sociaux, pas trop de concurrents. Ouais. Je pense qu'on était toutes là pour kiffer l'aventure en mode colonie de vacances. Je prenais l'avion pour la première fois de ma vie. Et là, t'es aux Maldives et t'as juste à kiffer. Mais je voulais pas devenir Miss France. Et puis, le dernier jour, je me dis, putain, j'ai loupé 3 semaines de cours, commerce international, j'étais en cursus anglophone. C'est peut-être plus simple, finalement, que je devienne Miss France là, que je reporte tout d'un an, plutôt que d'arriver, d'avoir mon partiel, de me taper, enfin, du coup, de baisser ma moyenne générale, qui était plutôt bonne. Ok, bon, allez, vas-y. Allez, fonce, et puis t'as rien à perdre. En gros, ça s'est passé vraiment comme ça. C'est, allez, je prends si ça arrive, et puis sinon, bah, vraiment, je serais contente de retrouver ma petite vie, mon petit mec de l'époque, mes amis, ma famille, et de retourner vivre chez papa, maman.
Est-ce que ça a changé quelque chose dans ton état d'esprit, c'est sûr, ce wake-up call de fin. Ouais. Ça a changé quelque chose le jour de l'élection? T'es partie du coup en mode compète aussi de toi-même?
Ouais, parce que je pense que j'étais compétitrice dans le sens sportif du terme. Je l'ai jamais été. Enfin, de toute façon, tu vis pas
10 000 concours de beauté dans ta vie.
Donc je pense que ça m'a portée. Mais tu sais, c'est l'esprit compétiteur, mais pas en écrasant. C'est juste en mode.
T'as envie de gagner, quoi.
J'aime bien performer, c'est vrai, dans ma vie professionnelle. C'est la même chose aujourd'hui. Et ouais, je pense que le wake-up call, il a été vraiment, à la dernière minute, quoi. En mode, ok, vas-y. C'est comme si j'enfilais mes baskets, j'ai fait longtemps de l'athlétisme, et que t'as la boule au ventre, tu sais que tu vas pas gagner, mais s'il y a un micro déclic dans ta tête où tu te dis, putain, c'est peut-être pour toi, et ben à ce moment-là, je pense que ça peut tout changer. Et je vous parle de ça, mais je pense que on peut le généraliser dans toutes les situations possibles.
Ouais. Et comment t'as fait une fois, peut-être parle-nous juste de l'année où t'es Miss France, que mine de rien, même s'il y a des gens, encore une fois, qui peut-être aujourd'hui ont un regard plus critique, ça reste une année remplie d'opportunités. C'est pour ça que, enfin, moi, je nie pas du tout le fait que c'est clair que c'est une énorme opportunité après pour la suite de ta vie. Comment ça s'est passé cette année? Enfin, parce qu'en plus, tu passes de ton petit... Je sais pas si t'étais en ville ou si c'est dans un village, mais de ta région, en tout cas, bretonne, assez préservée, à full capitale, voyage, représentation. C'est parce qu'en plus, comme tu dis, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc, en fait, les personnalités publiques, c'était vraiment
c'était
les personnes
fort,
qui passaient à la télé, quoi.
Ouais, tu deviens, en fait, en 4 heures, en 3 heures de programme, tu passes de rien à la femme la plus médiatisée de France.
Ouais.
En 3 heures en de temps comme
heures.
Ça,
ouais,
c'est
ouais.
ouf. Bon, ça, sur le coup, je pense que je m'en rends pas trop compte parce que t'es un peu protégé quand même dans ce système Miss France et l'équipe est vraiment bien rodée, tu vois. Enfin, voilà, tu te sens protégé, tu sens que, bon, l'année va être. On te met en garde, hein, tu vois, tu dépends d'un système pendant un an et 365 jours, t'es salarié d'une société, de la boîte, de la société en démol. Et en fait, tu signes le contrat et t'as pas trop ton mot à dire. Donc, c'est une première expérience professionnelle. Et moi, je l'envisage vraiment comme un stage grandeur nature où, dans l'école de commerce, tu le sais, à Sciences Po, on te rabâche que le réseau, c'est le plus important. Si tu veux rentrer dans la vie professionnelle. Donc en fait, je suis très organisée dans la vie. Tu l'as pu le remarquer dans mon petit sac avec lequel je suis arrivée. Voilà, il y avait tout qui était organisé pour ce qui se passe après. Et ben, j'avais mon petit classeur, j'avais des petites intercalaires et je me suis dit, ok, donc là, chaque personne que tu vas rencontrer, que ça soit l'agriculteur au salon de l'agriculture, au politique à Metz ou à l'animateur et aux gens des médias que tu vas croiser, ben en fait, je m'étais fait 3-4 intercalaires où je mettais les cartes de visite, les endroits où je les avais rencontrés, ce qui m'avait potentiellement proposé de faire après mon année de Miss France, parce que pour moi, tu sais, j'étais en mode, ok, un an, c'est cool, mais il faut que ça me serve à quelque chose. Il faut que derrière, j'ai un stage béton pour finir mon école de commerce.
Ouais.
Et donc, j'étais vraiment dans cette vision de transformer l'essai après, parce que le côté esthétique, moi, j'étais pas hyper non plus en phase avec ça. ça m'a féminisée, certes, c'est cool, mais il fallait surtout pas qu'on retienne que ça de moi. Donc, donc en fait, et les filles te le diront, et l'organisation, j'avais toujours ce petit classeur de carte de visite que je n'ai jamais rouvert derrière, parce que les opportunités, finalement, ça se conçoit autrement. Et ça, je l'ai appris plus tard, mais ça me rassurait. Je savais que j'étais pas là pour juste pour flâner et faire la belle. J'étais là pour construire demain, ce qui allait se passer demain, et ce que j'allais pouvoir peut-être construire de plus grand que si j'avais continué à vivre à Brest, en fait.
Ouais, c'est hyper cool d'avoir dès le début cette vision de transformer l'essai, comme tu dis, et d'une vision de terme sur ta carrière qui est assez mature quand même à 19-20 ans, quoi. Quand
je pense que
élue,
ouais.
C'est clair que c'est ce qui t'a permis, je pense, après, en plus, peut-être de sortir de cette image. Enfin, comment t'es sortie justement de cette image juste du physique? Ouais. Est-ce que t'as repris tes études après cette année?
Bah, je pense comme toi, j'ai toujours eu peur de souffrir du syndrome de l'imposteur et je suis toujours en plein dedans. Donc en fait, il faut que je justifie par des diplômes, beaucoup de diplômes et beaucoup d'expériences que si je suis là, c'est pour... C'est parce que j'ai bossé, c'est pas par hasard. Donc encore plus quand tu traînes, attention, je mets des guillemets, un boulet, comme ce que peut être l'étiquette Miss France qui me collera quoi qu'il arrive tout au long de ma vie. Et ça, c'est pas simple en vrai, tout le temps à accepter, parce que dans le monde dans lequel on vit, les étiquettes, au bout d'un moment, en fait, c'est...
C'est handicapant.
Ça peut être un handicap et je voulais surtout pas que Miss France le soit. Donc, comme une gentille petite écolière, après mon stage intensif de 365 jours de Miss France, je suis retournée à mon école de commerce à Brest et je leur ai demandé de pouvoir terminer ce que j'avais entamé. J'avais un an et demi, il m'en restait un an et demi, c'était pas grand-chose et je trouvais ça dommage de clore ce chapitre-là. Donc j'ai terminé mon école de commerce, bac plus 3, et je me suis laissée la chance de tenter... ma chance est de devenir peut-être la journaliste sportive que j'avais toujours rêvé d'être dans un petit coin de ma tête. Mais quand t'es en Bretagne, c'est pas vraiment, tu vois, le journalisme, c'est pas ce vers quoi on te pousse à aller parce que les opportunités sont minces. Mmh. Alors qu'à Paris, forcément, le monde des médias qui s'est ouvert à moi, je me suis dit, j'ai quand même rencontré du monde. Ça pourrait peut-être bien se passer. Et puis au moins, j'essaye. Donc derrière ce bac plus 3, je tente les concours des écoles de journalisme. Le CFPJ, qui est la plus réputée et celle que je vise, je suis retenue. Tu vois, sur 1000 candidats, on doit être 12 à être retenue. Je pensais jamais l'avoir. Je me suis acheté la panoplie de la culture générale pour les nuls et tout, tellement j'avais trop peur d'avoir tout oublié, tu vois.
C'est vrai qu'il y a un an,
enfin, t'as le bac qui est du coup plus loin. Enfin, ouais. Tu vois, vraiment, pour le coup, t'avais pas mal de questions politiques, géopolitiques, historiques. Donc, j'avais peur de nager en plein délire et d'avoir tout oublié. Et en fait, ça marche. Donc, déjà, ça me booste en termes de confiance. Et je me dis, OK, bon. Là, il y a plein d'opportunités et on te propose plein de trucs quand tu viens de finir Miss France, mais ça va de la Miss Météo à, je sais pas, en Bretagne, on me proposait, je sais pas, d'être égérie pour des marinières. Enfin, tu vois, c'était vraiment tout et n'importe quoi. Et en même temps, tout était à considérer, ce que je faisais. Mais à côté, je m'obligeais à refuser ce qui pouvait freiner mon apprentissage en école de journalisme. Et donc, je voulais le faire vraiment sérieusement et avoir toutes les cartes et tous les diplômes pour arriver sur le monde du travail et des médias et me dire, OK, maintenant, je suis plus diplômée que Michel, qui pourra peut-être être mon collègue chez Eurosport. Et au moins, personne ne pourra rien me reprocher. On m'a quand même reproché. Hein.
Ouais, mais tu pourrais nous en parler parce que c'est vrai que j'allais te dire... C'est triste en fait que t'es. Enfin, c'est génial, j'imagine, t'as appris vachement de choses pendant tes deux formations, mais c'est certain qu'en tant que femme, on t'aurait tellement, dans un monde en plus de journalisme sportif qui est quand même très masculin, collé l'étiquette de la minette.
Ah, mais c'est sûr.
Qui est arrivée là par hasard.
Mais quoi qu'il arrive, je l'ai eu. Hein.
Ah ouais, quoi qu'il arrive.
J'ai dû m'en défendre. Mais c'est OK.
Moi non.
Non,
moi je le dis, ce n'est pas OK.
Ce n'est pas OK, mais en fait, il y a un moment donné.
Tu peux rien y faire. Non, mais c'est. Enfin, on peut remettre à la place, etc. Mais c'est vrai que c'est assez triste de se dire que à formation égale, un homme n'aurait pas du tout eu le même traitement, tu vois.
C'est sûr.
Et que, au final, t'avais limite pas d'autre choix que de. Si jamais on te reprochait ça, lui rétorquer. En fait, j'ai eu un bac plus 5 et je ne suis pas là uniquement de par mon apparence physique. Tu vois, c'est assez dommage le jugement qui reste vachement ancré là-dessus.
Ah non, mais ça, c'est, je pense, le combat d'une vie. Et t'as toujours, et moi j'ai toujours eu l'impression de devoir forcer les portes plutôt que de juste les passer sans avoir à me justifier. Tu vois, il y a toujours un côté un peu forceur de ok, j'ai ça à prouver. Et puis j'ai ça comme backup. Et regardez, moi aussi, j'ai fait ces études-là. Mais je suis d'accord, c'est pas... Mais je pense que c'est un cheminement et le fait d'en parler et de le rendre public, c'est aussi ma manière de le traduire et peut-être d'aider d'autres derrière qui suivront ce cheminement-là. Mmh. Et je sais qu'on peut servir d'exemple et j'en suis trop fière, tu vois. Même si on en a bavé sur notre parcours, eh ben, je suis certaine que, je sais pas, nos enfants, nos filles... rencontrera, je l'espère, pas les mêmes obstacles que nous.
Les mêmes stéréotypes, c'est sûr, mais en effet, je pense qu'en parler, remettre en question, après on espère que les hommes de 50 ans qui sont peut-être encore à la télé écoutent ce genre de podcast, je n'en suis pas convaincue, mais bon, dans tous les cas, c'est sûr que les choses bougent. Donc tu arrives, tu finis tes études, et là tu entres direct, du coup, dans le journalisme sportif.
Oui, en fait, c'est même allé un peu plus vite que ça parce que j'étais encore en école de commerce et tu sais après ton genre les 15 derniers jours de ton année de Miss France on te pose la question dans les médias tu sais c'est un peu les interviews finaux genre qu'est-ce que vous allez faire après et je savais que c'était le moment où il fallait balancer un peu tous les messages de ce que j'envisageais faire donc je le criais haut et fort je vais terminer mes études mais j'aimerais vraiment tenter ma chance dans le journalisme sportif, c'est quelque chose qui m'a toujours fait rêver depuis que je suis toute petite. Et donc j'envoie, tu vois, des signaux en mode l'équipe 21, Eurosport, Stade 2, enfin voilà, tout ce genre d'émissions et de médias, c'est ce vers quoi j'aimerais tendre. Et Eurosport m'envoie un mail et me contacte pour passer un entretien avec eux. Ce que je fais, donc je me souviens, c'est vraiment genre, je sais pas, j'ai dû être... passer, tu sais, faire la passation de couronne et d'écharpe à celle qui me suivait. On est le 3 décembre, certainement. Et je sais que je me souviens, le 10 décembre, j'ai plein de rendez-vous à Paris, justement, pour gérer la suite, dont Eurosport. On m'y dépose. Et puis là, ils me proposent un contrat. Mais je leur dis, je veux bien, mais j'ai pas encore la formation. Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que vous pouvez me former? Mais derrière, accepter aussi le fait que je retourne à l'école... Et qu'on puisse envisager une collaboration en alternance pour que j'apprenne le métier en parallèle de bosser chez vous. Ils sont d'accord. Et donc en fait, j'avais déjà commencé à bosser chez Eurosport avant même de prétendre en fait au concours de journalisme. Mmh. Donc c'était cool parce que quoi qu'il arrive, en fait, j'allais me former.
Ouais.
Et quelle que soit l'école que je visais ou dans laquelle j'allais être prise, bah, j'avais eu au moins mon petit 6 mois de stage intensif chez Eurosport et ils me proposent de faire des trucs de fou. Enfin, j'ai présenté les JO, enfin, un truc
de dingue. Les JO, énorme.
La natation, les JO, enfin.
Ouais.
J'étais à Londres en 2012, donc improbable. Mais encore une fois, tu vois, c'est. Ok, autant croire à sa bonne petite étoile et je pensais pas que c'était possible en si peu de temps, quoi.
Et est-ce que là, tu arrives à gérer aussi le stress que ça peut représenter d'avoir autant de responsabilités, entre guillemets, parce que, putain, les JO, tu essayes de faire semblant de pas savoir combien de personnes regardent, mais tu te doutes que ça se...
Après, c'était sur Eurosport, hein.
Ouais, ok,
tu vois,
c'est d'accord, France 2, je me rends pas compte du tout des audimat.
Moi non plus, je sais pas quoi, en vrai, je pense que je pensais même pas à ça.
Mais t'as quand même milliers de personnes pour les JO, tu vois.
C'est sûr.
Et t'arrives à pas te mettre, parce que, franchement, moi, je me dis, souvent, c'est... On n'est pas à l'abri, quoi, de s'auto-saboter, tu vois, parfois inconsciemment, parce qu'on voit plus ce qui sera difficile... genre c'est trop cool, tu vois. Et après, c'est un peu un état d'esprit, hein, mais je connais vraiment pas mal de gens qui préfèrent ne même pas essayer par peur de ne pas réussir.
On n'est jamais très tendre envers soi-même, et surtout lorsque une épreuve comme celle des JO, hein, on prend cet exemple-là, tu vas présenter une émission tous les soirs où tu vas recevoir Teddy Riner qui vient d'avoir sa médaille olympique en judo, et enfin tous les champions en fait, de France qui avaient performé. D'accord, super. Et en fait... Ok, donc il y a un stade d'autoflagellation où je vais pas y arriver. Et puis il y a un stade où Je pense que c'est encore le même déclic mental qui s'est passé lorsque je me dis c'est plus simple que je gagne Miss France plutôt que de, ouais. de reporter et de flinguer finalement mon partiel de commerce international. Et ben c'est la même chose, je me dis allez ok là maintenant tu t'es assez autoflagellé, tu sais ce qui peut ne pas marcher, mais tu sais aussi quels sont les curseurs à mettre en place pour que ça fonctionne et pour que tu sois blindé. Donc évidemment je lisais tout ce qu'il y avait possible imaginable sur chaque personne sportive, l'historique de chaque épreuve aussi et discipline, de la natation en passant par le judo et par le basket, et pour être en fait ultra blindée, ultra confortable avec les connaissances
ouais.
que j'amenais. Ouais. Parce que de toute façon, j'avais pas l'expertise, je débarquais. Donc après, je pense qu'il y a un moment donné, ils viennent aussi chercher un peu d'authenticité et de fraîcheur plutôt que d'avoir un journaliste sportif ultra péchu qui fait ce boulot-là depuis 30 ans et qui est peut-être un peu blasé. Donc en fait, je me suis dit, bon, pourquoi t'es là ? On t'a choisi ? Bon, bah, ok, bah, t'as plus rien à perdre, allez, vas-y.
Ouais.
Et ça s'est bien passé. Ça n'a pas été simple, ouais. je l'admets. J'avais à l'oreillette, enfin, t'as beaucoup de choses et d'éléments qui sont étrangers en fait qui sont juste étrangers à qui que
nouveau,
ce soit
hein,
et
plus,
nouveau
hein, ouais.
à gérer. Et en fait, bon, bah. Je me suis mis dans le bain. Mais je pense que ça, c'est, comme tu le dis, un état d'esprit, c'est d'avoir la capacité de s'adapter à n'importe quelle situation. Et on a beau dire, mais Miss France est aussi une super formation pour ça, parce que t'as pas un planning calé à l'avance.
Mm-hmm.
Tu peux rencontrer Michel éleveur porcin comme Emmanuel Macron dans la même journée, tu vois. Donc, enfin, c'est... L'adaptabilité, elle est quand même...
C'est sûr. Ouais.
Tu vois, c'est, ouais. c'est cool. C'est une vraie formation de vie.
Ouais, c'est vrai que c'est une vraie compétence à ouais. acquérir.
Qu'on t'apprend pas à l'école, hein.
Non, qu'on t'apprend pas à l'école ouais. et que tu ne peux pas apprendre si tu n'y es pas confronté.
Exactement.
Tu vas t'entraîner dans ta chambre à parler ouais. à telle ou telle personne. Donc,
mais ça, je m'entraîne avant les émissions quand même.
C'est vrai, tu t'entraînes
ouais, toujours, pour les intros,
face
pour
au
les
miroir
Pas forcément face au miroir, mais sur mon vélo, dans le trajet, dans la voiture... Juste, il y a un truc où, et je pense que pour les podcasts, peut-être c'est la même chose pour toi, quand je connais mon intro, mon bonjour et ce que je vais dire et le programme que je vais présenter, bah, tu sais, tout de suite, ça te met dans des petits chaussons.
Ouais.
Donc, pour une présentation, un speech que vous avez à faire devant votre patron, j'en sais rien. Je trouve que c'est quand même d'apprendre son speech par cœur, mais en même temps de le vivre et de le faire vibrer. Et ben ça te, tout de suite, bam, tu pars dans
plus
de
à
bonnes
l'aise.
Conditions derrière.
Ouais.
Ouais.
À quel moment, du coup, tu te dis « Ok, le journalisme, c'est cool, mais je veux pas faire que ça.
»
Est-ce que ça vient de toi ? Est-ce que ça vient de quelqu'un d'autre ? Est-ce que là aussi, on te propose quelque chose ?
Je pense que c'est des opportunités. En fait, au moment où j'ai eu conscience que je devenais un peu chef d'entreprise, c'est déjà lorsque j'ai créé ma société. Donc ça, c'était genre 2 jours après Miss France, où Sylvie Tellier, qui a un diplôme de juriste, t'apprends à te structurer parce que bon, tu passes du statut de salarié à rien,
ouais, ouais.
à revenir dans ton école de commerce. Mais en fait, t'as quand même des marques qui t'approchent, des médias qui t'approchent et tout ça, en fait, il faut le structurer juridiquement parlant. Donc, je crée ma société, mon EURL, et accompagnée d'une juriste, d'un comptable, parce que tout ça aussi, ça devient une vraie gestion. Et je savais pas trop à quoi allait me servir cette société. Sur le coup, si ce n'est à faire de l'entrant, c'est-à-dire, je sais pas, Armor Luxe veut que je les représente en tant que bretonne et Géry, ok, très bien, ok, ça se facture et puis ça s'organise. Et Eurosport m'emploie, c'est pareil, il faut que je m'organise juridiquement, comptablement parlant. Et puis, au fur et à mesure, je me suis dit, cette société, c'est cool, elle gère les activités les activités concrètes que je mène, mais si je venais à créer, à développer quelque chose comme on nous a appris en école de commerce, qu'est-ce que ça donnerait ? Et là est venue l'idée, il y a eu les livres, il y a eu, parce que tout ça c'est une petite entreprise aussi, hein, il y a eu la marque Parisienne et Alors qu'on a évoqué au début, et en fait là j'ai senti qu'il y avait un basculement qui se créait et que je devenais en fait un peu une femme d'entreprise. Et là, j'ai commencé à kiffer.
Ouais, ça va là où t'as vraiment kiffé avoir plusieurs...
Ah ouais, il y a un truc de ouf qui se passe où t'as l'impression de pouvoir bouffer le monde, quoi.
Ouais.
Et que tout est possible, alors que jamais j'aurais pensé créer une société, une entreprise un jour. Et en fait, ça s'est fait un peu malgré moi, par des rencontres, des opportunités, des envies de consommer différemment. Et ouais, c'est là que ça devient fun.
Ouais.
C'est difficile à expliquer, mais ça, c'est fun.
En fait, c'est sûr qu'en plus, t'es plus libre. Moi, il y a un côté où ça m'angoisse de faire... qu'un seul projet parce que et ça s'arrête, tu vois.
Si ça se casse la gueule.
Tu t'es pas à l'abri d'eux. Donc, et puis ne serait-ce qu'en effet, quand peut-être un projet te botte moins qu'un autre, bah, ouais. T'en as un autre sur lequel tu peux te raccrocher. Donc c'est vrai que c'est du stress, mais en même temps une grande liberté.
Ouais.
De l'extérieur, mais bon, peut-être que tu vas me démentir, mais j'ai l'impression qu'un gros morceau, c'est Parisienne et Alors.
Ouais.
Parce qu'une marque, c'est énormément de travail.
Oui,
je le sais, je le sais. Comment t'abordes ce truc de bon bah maintenant je vais être designer et chef d'entreprise, genre tu vas aussi la fleur au fusil ou
ouais. Moi de toute façon j'avais pas les compétences non plus de devenir ouais. Enfin j'ai aucune connaissance dans le milieu de la mode, donc l'un des premiers réflexes que j'ai avant même que Parisienne et Alors débarque, c'est d'apprendre à déléguer. Ça, c'est le premier truc où, au début, évidemment, une EURL, donc c'est une c'est une entreprise
c'est
à personne unique.
Ouais.
Tu es toute seule, donc c'est-à-dire que tu gères ton administratif.
Chercher le cidre.
Va donc chercher le cidre. Et je continue, je te parle.
Bah, ouais, vas-y.
Ouais,
si tu veux. Allez.
Les glaçons sont là. Et qu'est-ce que je racontais?
Délégué.
Donc, d'une personne unique, il y a un moment donné, en fait, où tu sens que... J'adore ce petit bruit du cidre, petites bulles
c'est
en même temps.
Un bruit très doux.
Tu sens que tu vas pas pouvoir tout gérer, ta compta, ton administratif, tes mails, les gens qui t'appellent en direct, les SMS, enfin, les réseaux sociaux ensuite débarquent. Donc, il y a aussi ça à gérer. C'est une formidable vitrine et une formidable outil de com, finalement.
Ouais.
Et je l'entrevois comme ça. Et en fait, là, du coup, je me dis, OK, il faut que je m'accompagne d'un conseil, quelqu'un aussi auprès de qui tu peux te confier et avoir un avis, parce que des fois, ton propre avis n'est pas forcément le...
Enfin, le judicieux ou
exactement,
le pertinent.
D'avoir un recul nécessaire, c'est hyper important. Et d'avoir quelqu'un qui t'assiste un petit peu sur toute la partie management qui te pompe une énergie de fou, quoi.
Ouais.
Et à partir de là, je me suis dit, OK, donc si je dois créer d'autres choses, eh ben je saurais déléguer les parties que je ne maîtrise pas. En l'occurrence, chez Parisienne et Alors, je suis, si vous voulez, un peu la directrice artistique. Donc, je donne les moods, ce vers quoi j'ai envie de tendre pour une collection. Mais toute la partie production, toute la partie communication, toute la partie digitale, et je pensais à l'Instagram, mais aussi à un site internet qui... Enfin, je ne sais pas coder, moi, donc j'aurais pas pu faire un site internet toute seule. Toute cette partie-là sont déléguées et je les délègue à mes deux associés que sont Axel et Dorothée, que j'embrasse et qui ont croisé mon chemin et qui en avaient ras-le-bol, elles, du milieu de la mode. Elles s'y connaissaient, elles avaient bossé dans plein de marques qu'on connaît tous. Mais elles avaient... voilà, je pense qu'elles avaient fait un petit burn-out de ce que la mode avait à leur proposer et elles avaient envie de créer autre chose et autrement avec cette conscience aussi de... et l'envie de mieux consommer,
ouais.
Ce qui est toute l'ADN de Parisienne et Alors à la base.
Ça, c'est vrai que c'est incroyable parce que ça te permet de donner vie à tes envies sans avoir, c'est vrai, à supporter le poids que peut être la gestion de la totalité qui peut parfois épuiser. Et je pense que les gens ont de plus en plus conscience, mais que c'est OK quoi, de s'associer, de travailler avec d'autres personnes dès le début.
Il n'y a pas de succès qui se fait
seul.
Hein.
C'est pas grave de ne pas savoir tout faire.
Mais oui.
Et moi, je sais que parfois, je m'en suis voulu, quoi, en mode, quand même, tu pourrais savoir faire ça. Ou tu sais, un peu, comme on est dans une société très no pain, no gain, un peu ce que tu as fait, genre, bon, moi, je me forme et du coup, je vais réussir. Mais en fait, non. Sinon, tu t'épuises. Et surtout que, du coup, enfin, parfois, on est obligé de passer par là, mais dès qu'on le peut, faut en effet accepter de déléguer pour se concentrer sur ce qu'on aime le plus faire.
Bah ouais, l'action.
Avis,
moi c'est l'action.
Coder, même si t'apprenais à le faire, c'est peut-être pas ce qui te procurait le plus de plaisir, quoi.
Non, c'est sûr. Et je pense que perso, je pense que tu l'es aussi, mais on est des femmes d'action. Donc il y a des trucs, il y a du temps que j'ai plus envie de perdre.
Ouais,
sur, je prends le truc qui était le plus anxiogène pour moi au début en tant qu'entrepreneur, c'est les notes de frais, c'est la comptabilité, c'est l'administratif, c'est répondre à des mails, c'est mais genre rien que d'y penser, genre ça me donne des frissons d'angoisse, quoi. Donc tout ça, il y a un moment donné, ok, t'es ok à mettre un peu tout de côté, de payer une personne pour te le faire.
Ouais.
Et c'est cool, et c'est aussi comme ça qu'une entreprise
grandit,
se multiplie et derrière fait aussi plus de bénéfices parce que ton énergie, tu la focalises ailleurs et sur l'essentiel, quoi.
Ouais. Et ça a été assez simple pour toi de savoir là où tu voulais te concentrer parce que Surtout que comme tu es au final l'image de tout ce que tu fais, enfin moi aussi j'ai un peu ce problème où je me dis en fait il y a plein de trucs que je pourrais pas déléguer, enfin parce que that's me.
Typiquement Instagram.
Ouais, typiquement les réseaux.
Ça j'arrive pas.
Tu vois, alors que ça prend un temps fou et pas. J'ai des amis entrepreneurs, entrepreneuses qui me disent mais Louise genre ta valeur ajoutée elle est pas là, tu vois. Et d'un autre côté bah déjà j'ai commencé par ça moi, donc genre j'ai un attachement profond, j'aime le partage.
Mais l'esthétique aussi.
Ouais, alors l'esthétique de...
Je sais pas, des visuels. Je sais qu'on a eu une conversation à un moment donné où je me suis dit, mais comment t'arrives à faire cette typologie avec ce fond-là?
Oui,
et je trouvais ça trop beau.
Ouais.
Et en fait, je me suis dit, si je pense savoir comment elle fait et qu'elle le fait vraiment comme ça, ok. Donc la meuf est vraiment dingo de l'esthétique. Et en fait, j'avais raison.
Non, c'est j'avoue que c'était une petite...
astuce, mais ça fait chier quand même.
Non, mais parce que c'est vrai que je pense pas que les gens me suivent pour l'esthétique de mon compte. Enfin, tu vois,
Moi, je trouve que moi, je suis les comptes qui m'a procuré un bonheur et un visuel.
Alors, il y a certaines personnes carrément, et je respecte totalement.
Ouais.
Je pense, mais peut-être que les auditeurs et auditrices qui nous écoutent diront le contraire, mais moi, c'est plus pour le message que je partage, tu vois.
Évidemment.
Mais il y a
avant toute chose, il faut
tout, tu vois.
Ouais, ouais.
Mais c'est vrai que je me suis jamais posé la question d'à quoi ressemblait mon feed. Mais genre, never. Enfin, en fait, même si j'aimerais avoir un beau feed, c'est comme ce qu'on disait un peu en off avant de commencer, c'est. En vrai, si ça me tenait vraiment à cœur, ce serait le cas. Mais comme j'aimerais, mais qu'au fond, je m'en fous, ben je mets pas l'énergie dedans.
Putain, bravo.
Tu vois, déjà, mettre l'énergie dans... Enfin, l'énergie à faire des bons posts qui me parlent, c'est déjà, tu vois, conséquent. Ouais. Si en plus, je me prends la tête sur quelle photo tu mets en dessous, à droite, à gauche... Voilà, moi, en fait, c'est...
Non, ça, c'est un truc qui peut me prendre des heures.
Ah ouais, je pensais pas du tout, parce que pour te suivre, c'est vrai que tu partages des trucs très différents, tu vois.
Oui, oui, non, mais
donc
complet.
Donc je me dis, bon, ok, on
mais
est dans la même...
J'essaye d'avoir visuellement un recul qui, moi, m'apportera, tu vois, ce petit bonheur...
Une satisfaction, mais
satisfaction,
je comprends totalement.
Satisfaction esthétique.
Ouais. C'est l'art, c'est ça, hein, c'est, on est face à quelque
mais
chose
mais comme quand je feuillette un magazine,
bien,
tu vois, il y a des trucs qui... Voilà, c'est ça, c'est un peu le truc un peu satisfaisant. Tu
je comprends totalement.
Voilà.
Mais
c'est cool que tu...
C'est pour ça que ça existe à Instagram à la base. Hein. Mais bon, moi, après, c'est mon excuse. Hein. C'est on veut du vrai. C'est pour ça que mon appart n'est pas rangé.
Non, j'aurais pas dit ça, moi.
On vous montrera après en off. mais
c'est ça qui est cool.
C'est ça qui est cool avec les réseaux aussi. C'est que tu y trouves ce que tu veux y trouver. Tu vois,
genre, typiquement, tu serais venu chez moi faire le podcast. Genre, j'aurais retourné l'appart et j'aurais tout rangé.
Ouais.
C'est ouf. Hein. Mais tu vois,
c'est grave une question de personnalité. Hein.
Je sais pas, et en même temps c'est nul. Enfin, après tout, qu'est-ce que t'as à prouver que ton appart est rangé? On s'en fout, mais moi ça me rassure, tu vois, parce que sinon je sais que je vais pas, tu vois, j'aurai l'attention portée sur un truc qui dépasse et tout, ça me saoulerait.
Je comprends. Bah, je pense que c'est marrant parce qu'on parlait aussi en off des livres qu'on écrit. Donc moi j'écris sur la déconstruction, donc sur comment réfléchir par soi-même et déconstruire un peu les croyances avec lesquelles on a grandi. Donc typique, bien sûr qu'on grandit tous avec l'idée qu'il faut que tout soit rangé, que c'est genre... tu vois, peut-être des gens qui écoutent et qui savent maintenant qu'on appart n'est pas rangé vont se dire « c'est quand même le minimum
».
Mais je sais pas, je suis arrivée à un tel niveau de déconstruction que je vis vraiment, de par moi, ce que j'ai envie et ce qui me parle.
Putain, chapeau.
Et donc en fait, comme en vrai, je m'en fous. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont venus chez moi et qui se sont dit genre « putain, Louis, son appart, ça m'en la cata, mais... » I don't give a shit.
Ouais.
Tu vois, genre, moi, je vis dedans, tout va bien, j'avance dans mes projets, c'est ce qui compte pour moi, pas ce que les gens vont penser.
Mais,
tu vois.
Alors, c'est même pas penser, c'est vraiment, moi, tu vois, je peux pas, on divague un peu, mais je peux pas me concentrer sur un truc, avoir un call, même être toute seule chez moi, et avancer sur un projet, sans que autour de moi, visuellement, tout soit nickel. Genre, c'est un truc, ça me perturbe, je peux pas.
Ouais.
Alors ça me prend un temps fou des fois, hein, parce que je me dis ok, donc à 8h tu commences à faire ça, bah non, du coup de 8h à 10h je range et ensuite à 10h je m'attaque au projet en question.
Ouais, non mais je comprends totalement, c'est vrai que je suis contente de pas être comme ça parce
que t'as raison,
en fait,
hein, c'est vachement soulageant.
En fait, c'est terrible à dire dit comme ça, mais c'est juste qu'en fait je cours tellement après le temps que.
Ouais, c'est ça.
Mais en fait c'est terrible, moi 2 heures de perdu déjà à ranger, c'est pour ça que mon appart n'est pas rangé, c'est que du coup je le fais à minuit quand je rentre et au bout de 10 minutes j'en ai marre et je vais dormir.
Coup,
mais peut-être que ça changera. Hein. T'étais comme ça déjà aussi quand t'avais la vingtaine.
Non, je me souviens d'ailleurs que ma mère m'engueulait tout le temps parce que ma chambre n'était jamais rangée. Mais j'avais des phases, en fait, j'avais des phases de bordel, mais comme je l'ai d'ailleurs encore toujours aujourd'hui, hein, bordel, mais par contre, après le switch, il se fait au bout de 2 jours, ok, donc là, il faut tout que je clean, limite, je fais un tri, il faut qu'il y ait plus de place pour pouvoir ranger et que tout soit à sa place. Mais ouais, je pense que c'est une éducation aussi, hein. Ma mère est hyper perfectionniste, tout doit être à sa place tout le temps, donc je pense que j'ai un peu hérité ça d'elle. Merci maman, ou pas, je ne sais pas.
Bah non, parce que tu vois, ils me parlent le son aussi, mais j'ai fait un rejet.
Ouais, bah
ils m'ont
voilà,
tellement pris la tête que j'étais là genre, stop it, quand j'aurai mon appart, ce sera comme je veux.
Comme je veux.
Mais après, t'as raison, il y a un équilibre dans tout, mais le message étant qu'il faut s'écouter et pas faire les choses pour les autres, quoi.
Aussi, c'est vrai.
C'est pour soi. Un autre aspect de ce que tu fais, dont je voulais parler, c'est le restaurant.
Ouais.
Parce que j'y suis... Enfin, parce que si je me trompe pas, tu as pour l'instant...
Un restaurant,
voilà, c'est Pura Vida.
Ouais, c'est Vida que ça
s'appelle.
C'est Vida,
et c'est le compte Instagram qui est...
Non, c'est Vida Restaurant, mais Pura Vida, t'as raison, c'est une marque qui existe en plus et qui sonne bien.
Ah ouais.
Mais elle existait déjà, donc c'est juste Vida.
C'est facile à retenir.
Et tout ce qu'elle a de meilleur à nous offrir et qu'on essaie de mettre dans l'assiette.
Dont des frites à la patate douce.
Oui.
Tu sais que je suis reconnaissante envers vous.
Oh là là,
parce qu'il y a tellement peu de restos à Paris qui proposent des frites à la patate douce.
C'est pas le plus
en Angleterre et c'était...
Niveau calorique. Je tiens à préciser, c'est pas non plus ce qu'il y a de meilleur, mais la patate douce et sucrée. Donc,
celles et ceux qui me suivent savent que ce n'est pas ce dont on se soucie.
Non,
ici.
On s'en fout.
Le plaisir n'est pas calorique.
Ah, c'est vrai.
Non, mais
c'est
elles sont vraiment délicieuses. Et donc, ça pour dire que c'est aussi un gros projet, ça. C'est aussi un rêve, je pense, que partagent pas mal de personnes qui nous écoutent. Ça s'est fait. Avec ton mari, j'imagine, avec Juan. Est-ce que tu pensais déjà avant?
Alors là, pas du tout. Alors, mettre un pied dans la restauration, moi, c'était tout sauf ce qui me faisait vibrer. Et puis, bon, bah, j'ai découvert ça aux côtés de Juan, qui est un formidable chef d'entreprise et qui m'a beaucoup appris aussi à ses côtés. C'est pas très français ce que je viens de dire au fond.
Si, on a compris
l'idée. C'est le cidre qui me tourne la tête. Combien il est? 5 degrés 5, tout va bien. Allez, on continue. Non, comment ça s'est fait? Alors, encore une fois, tu sais, j'ai l'impression que ma vie est faite d'opportunités et encore faut-il savoir les saisir parce qu'on a tous des opportunités qui pointent le bout de leur nez. Mais encore faut-il, tu vois, saisir sa chance. Juan, non, je vais commencer par ça. Je finis d'écrire mon premier livre autour de mes méthodes qui pose un peu le décor au top tonique organique positive et je demande à Juan sur la partie organique qui traite de comment se soigner au quotidien mais aussi comment manger mieux et être en phase avec son organisme, sa microbiote, bref, et aussi savoir manger sans culpabiliser. Je sais c'est ce que tu prônes et c'est ce que je prône aussi au quotidien. Il faut savoir salir pour nettoyer. Voilà, petite parenthèse fermée. Je prône ça et donc le bouquin donc se referme machin, ça fonctionne et tous les gens nous demandent mais où est-ce qu'on peut manger ces bons petits plats que vous nous proposez dans ce livre et tout. Juan, il s'avère que ses associés sur ce restaurant qui existait avant mais qui ne s'appelait pas Vida et qui était peint en noir, enfin ça ne ressemblait absolument pas à ce que tu connais, qui est très verdoyant, très cocoon, paillote. Donc en fait, se sépare parce que l'un est brésilien et veut repartir, retourner voir sa famille. Et donc ce restaurant se retrouve avec ce restaurant dans les bras, sans associé, sans pouvoir le garder, faute de budget. Et donc il s'apprête à le vendre. En même temps, on se pose tous les deux, on se dit, ça serait peut-être quand même cool de continuer l'histoire, mais autrement. Peut-être de créer notre petite cantine bien-être. On fait quoi? Ok. On essaye. Allez, la cantine bien-être, la cantine Elsie de Laurier et Juan, Vida, avec en essayant de rendre sexy un navet, une betterave, un céleri et de faire plein de trucs, des petits bols à base de quinoa, enfin que des super aliments, mais où on a en quantité, tu le sais, mais où on se fait du bien.
Ouais,
voilà.
Ouais,
et en gourmandise et en couleur. Et Vida est née et on est associés aujourd'hui. À part égale, homme comme femme. Et c'est cool. C'est cool. Moi, je me suis laissée porter par son expertise dans le monde de la restauration. Moi, je lui ai apporté ma fibre déco, j'ai créé l'Instagram. Je suis la bonne cobaye lorsqu'il s'agit de goûter aussi les plats parce qu'il faut que ça nous plaise à tous les deux. Mais c'est pas moi qui cuisine, je vous rassure.
Si on rentre une crêperie,
peut-être.
Le coup de poignet, moi, je veux le voir.
Voilà. Donc c'est comme ça que c'est né.
Et ça se passe bien, le travail en couple? Parce que c'est un gros débat, ça.
C'est un gros débat, mais encore une fois, je pense que c'est comme sur la partie j'apprends à déléguer, il faut aussi apprendre à avoir
son
domaine d'expertise. Je ne sais pas cuisiner, je ne sais pas gérer la partie embauche, tu vois, d'un cuisinier, cuisinière, plongeur, service, enfin comment ça se passe, combien de staff, les congés payés, bref, tout ça, c'est Juan. En revanche, je suis pas certaine que Juan aurait été bon dans
la com.
Repenser, penser la philosophie du lieu, en créer une déco associée, et toutes les relations presse que je pouvais avoir. Tout ça, on a mis tout ça à profit, mais chacun gère sa partie et personne ne vient empiéter sur la partie de l'autre. Ça, c'est le plus important et c'est comme ça que ça fonctionne, je pense.
Ouais,
on s'est jamais pris la tête là-dessus.
C'est beau parce que c'est vrai que, je pense. Le fait aussi que vous ayez d'autres choses à côté, c'est pas genre votre seul truc à tous les deux. Et du coup, il y aurait un affect qui ferait que parfois tu peux mal prendre le fait que quelqu'un gère moins bien, entre guillemets, sa partie. Donc,
mais t'as raison. Je pense qu'il faut pas que ça soit un premier projet. Enfin, je l'aurais pas fait en tout cas, moi, j'aurais pas pris ce risque-là pour conserver et pour le bien-être de mon couple. Mais oui, c'est vrai que quand c'est un bonus que tu t'offres, ça peut être cool. Et puis au pire, si ça fonctionne pas. Ça, c'est pas un échec, tu apprends toujours.
Ouais. Mais c'est justement, j'allais t'en parler parce que, en t'écoutant, j'imagine qu'il y a des personnes qui se disent du coup, tout a été facile, tu vois, elle a eu plein d'opportunités.
Ah non,
puis ça a
pas été facile, on l'a pas dit.
Voilà, mais des personnes, tu sais, c'est l'interprétation, hein,
c'est
pour ça qu'il faut toujours.
Mais parce que j'en parle toujours de manière positive, quoi qu'il arrive, même quand ça n'a pas été simple.
Mais c'est pour ça que le podcast, c'est bien pour parfois parler de ce qui n'a pas été simple, parce qu'il n'y a pas de honte à ça, et je trouve que c'est hyper important d'en parler, et surtout, ça aide des personnes qui sont dans des moments difficiles à se rendre compte que ça fait partie du jeu, entre guillemets. Est-ce que tu peux nous parler soit d'un projet qui n'a pas marché comme tu le voulais, soit d'un moment dans les projets que tu as créé, où ça a été vraiment difficile pour parler aussi un peu de l'envers du décor?
Je pense que là où ça a été difficile, il faut revenir au moment finalement où je sors de Miss France, où je continue mes études, où j'ai pas le choix quand je passe mon école, mon concours d'école de journalisme au CFPJ. Une fois que t'es pris, si tu loupes un cours, t'es viré. En gros, là, il y a pas de place. Enfin, il y a 12 places. Tu vois, c'est trop peu. Pardon, petit rototo, tout va bien.
C'est le
cidre. et en fait, le moment le plus difficile, à mon sens, c'était de me focus sur ces études et en fait de laisser passer comme ça sous mon nez, tu vois, l'opportunité elle est là, hop, elle passe et t'as plein de propositions pour plein de projets qui te semblent mais tellement cool et tu peux pas en fait tu peux pas les accepter parce que sinon tu vas perdre toute la partie bénéfices et investissement sur le long terme que je faisais avec mes études. Donc en fait j'ai laissé passer mes mille trucs. Et avec cette frustration toujours et ce nœud dans le ventre en train de me dire, mais en fait, ça se trouve, mes études, elles vont me servir à rien. De toute façon, quand j'aurai mon master de journalisme dans 2 ans, tout le monde m'aura oublié. Donc au final, pourquoi je fais ça? Et en fait, c'est ce doute perpétuel de se dire que ta place, en fait, elle peut filer en un instant. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Je pense que... Je sais pas comment.
Si t'as des choses à dire et si tu as toujours la niaque, tu l'auras toujours un an plus tard,
c'est
en
ça. Exactement. Je pense qu'il faut jamais se laisser démoraliser parce que le temps passe et parce que tu dis non. Et d'ailleurs, apprendre à dire non, c'est hyper important. Et c'est aujourd'hui encore un supplice pour moi de
refuser des projets cool.
Et surtout, en fait, de décevoir des gens, tu vois, qui croient en toi, qui disent ce projet-là, je le voyais trop pour toi. Et en fait, finalement, il y a un moment donné où je me suis dit. C'est génial, on te propose plein de trucs, mais toi, qu'est-ce que tu veux plutôt que de dire oui ou non à des projets? Est-ce que c'est pas à toi d'entreprendre et de les créer et de rentrer dans l'action de je vais pas toujours être au service d'un média, d'une marque, d'un patron, je vais être ma propre patronne et ok, je vais laisser l'opportunité à des projets de voir le jour sans que j'en sois à l'initiative. Mais ce qui est quand même plus cool, c'est d'être à l'initiative de tout ça. Et mes études, pour moi, c'était de l'entrepreneuriat. Et derrière, de le transformer en grandissant avec une marque de vêtements, même si j'y connaissais rien, c'est de l'entrepreneuriat. Et même si ça a été difficile, et encore une fois, je sais pas pourquoi ma tête est faite comme ça, il faut toujours que ça devienne positif. et ben ça m'a putain d'appris à être à garder en fait la motive quoi qu'il arrive, que tu sois quelqu'un ou pas, que tu sois médiatisé ou pas. En fait, aujourd'hui, j'avais envie qu'on vienne me chercher pour ce que j'étais au fond, pas parce que j'avais été Miss France, mais pour tout ce que j'avais entrepris en jeune femme de 19 à mes 22 ans, quoi.
Qu'est-ce qui te plaît autant dans l'entrepreneuriat, tu penses ?
La peur du risque. Okay. Qu'il y a toujours du risque. Et que tu...
Lié au surf, je fais un petit parallèle parce que franchement, moi, le surf, je me suis toujours dit genre, les gens sont fous.
Les gens sont fous parce que t'as plus de chances de louper une vague que de l'avoir.
Ouais, clairement. C'est l'adrénaline de quand tu l'as, elle est plus belle parce qu'elle était plus difficile à avoir. Quoi.
Ouais, les papillons dans le ventre de se dire, ça va pas être simple, mais tu vas ramer, surf, mais une fois que tu seras sur la vague, putain, ça sera tellement bon. J'arrête pas de dire putain. C'est pas grave, on fait du vrai. Je dis toujours des gros mots.
Non, mais c'est on veut du vrai. Il faut déculpabiliser. Tu n'es pas parfaite et c'est bien de le montrer.
Ça, ouais.
Et on n'a pas parlé de la partie sport, mais je viens d'y penser parce que tu parles de surf, mais t'as aussi, avec Juan d'ailleurs, pas mal cet aspect défi sportif que vous fixez assez souvent.
Ouais, bah on s'est croisés d'ailleurs, on s'est rencontrés comme ça.
On s'est rencontrés comme ça.
À des fidèles.
C'est vrai.
En Islande.
Un raid.
Oh, c'était pas simple. Hein.
J'aurais pas dû commencer par un raid en Islande, moi
c'est
je te
chaud.
Le dis.
C'était
je
chaud.
Je n'avais jamais fait. T'arrives en pleine tempête de neige.
Ah ouais.
Je déteste la neige. Ouais. Je l'avais vraiment fait pour la cause, moi, pour le concert.
Ouais, mais tu regrettes ou pas ?
Non.
Non.
Non, c'est une belle expérience, mais je peux pas dire que j'y ai pris énormément de plaisir.
Ouais.
Là, je me souviens quand Camille s'est fait faucher sur le terrain de ski de fond, là. Une meuf est arrivée, genre, tout chou sur elle et tout. Elle était là, après, elle m'en voulait, mais... Non, mais c'était quand même une très belle expérience. Les paysages étaient magnifiques, les gens étaient très sympas, très bonne ambiance. Mais c'est vrai que je leur ferais peut-être plus... pour des sports qui me parlent, parce qu'en vrai, j'aime pas le ski, tu vois. Donc, à partir de là, à partir de là, c'était peut-être pas très stratégique.
Et en plus, t'avais perdu ton portable juste avant d'arriver, putain.
En plus, j'arrivais dans un mood... Mais terrible, parce que portable étant notre outil de travail, tu vois.
Ouais, c'était un peu compliqué.
Vol, mais vraiment sur le chemin, RERB, plus jamais, tu vois. J'ai voulu faire ma team transport en commun jusqu'au bout.
Je pense à toi quand je prends le RER, du coup.
Ah ouais,
ouais.
Bah franchement, là, le Xuxu, j'espère que tu l'as pas. Hein, parce
non,
que,
non.
Ouais, c'est bon. Bref, petit traumatisme, mais voilà, vous fixez des défis sportifs. C'est, alors, je vais poser une question qui est assez personnelle, hein, parce que moi, je le vis comme ça, mais moi, je culpabilise de prendre du temps qui n'est pas pour faire avancer mes projets.
Ah.
Est-ce que t'as ça ? J'ai l'impression que tu l'as pas trop.
Ah non, alors pas du tout. Au contraire, je c'est un cadeau que je m'offre à chaque fois de me prendre 4 jours pour réaliser un défi. Bon, en plus, souvent, il y a une cause qui est noble
derrière,
à l'issue. Ouais. Mais pour moi, le dépassement sportif, je le mets tellement en parallèle de mon dépassement professionnel au quotidien. Et comme toi, je cours après le temps. Et franchement, je regrette des fois que les journées ne fassent pas 72 heures parce que j'ai l'impression de jamais avoir le temps de rien. Et quand un défi sportif s'offre à moi, je le remercie d'être là à ce moment-là et à cette période-là parce que je sais que je vais plus être joignable. Et je préviens tout le monde, hein, toutes mes équipes, c'est mort pendant ce temps-là. C'est pour WAM, rien que pour moi. Ma souffrance, mon bonheur, parce que les deux vont ensemble pour moi et j'adore... tu vois, c'est drôle, on a vraiment une vision différente de... J'aime pas particulièrement la neige, mais la tempête de neige, quoi qu'il arrive, tu peux pas dire que c'était un kiff. Mais en fait, dans cette humidité, ce froid, le fait que la neige te gifle les joues et tout... Putain, moi, c'est ça que j'aime bien. Et le fait d'avoir une équipière qui soit peut-être un peu en train de plus galérer que toi et de devoir la pousser. Enfin, tu vois, il y avait un truc vraiment où je savais que j'allais être là pour souffrir. Mais derrière, en fait, tout paraît plus simple dans ta vie au quotidien pour affronter tous les obstacles qui s'ouvrent. Qui se pointe, quoi.
Ouais, t'aimes le dépassement de soi, mais c'est sûr qu'en plus, je l'ai vachement...
C'est une drogue.
Dans
hein.
le sport aussi, ouais. C'est vrai, mais j'essaye de me le rappeler parce que c'est assez facile de tomber dans... Après, les réseaux sociaux font aussi vachement ça, parce que tu vois ce que tout le monde fait, du coup, à
Bien
côté.
Bien sûr, ça
toi,
te challenge.
T'étais pas en train de le faire, mais c'est vrai qu'au final, non seulement on devrait accepter de le faire, même si ça nous apporte rien, mais en plus, le fait est que ça nous apporte vachement, autant personnellement que professionnellement, parce que, comme tu dis, c'est des compétences, des qualités qui te servent après au quotidien dans ta vie propre.
Ah, mais complet. Pour moi, c'est vraiment... Enfin, c'est des resets, tu vois. C'est je me nettoie et je me recharge d'énergie. Alors certes, je finis down, mais je sais pas, il y a un truc mental qui se crée où, comme je pense un sportif de haut niveau, tu vois, qui va chercher cette performance ultime et cette souffrance où tu sais que tes muscles et ton corps n'est pas prêt à ça. Mais en fait, tu vas l'amener au-delà, quoi. Ouais. Et je pense que dans nos, dans notre envie et dans tous nos projets professionnels, c'est ce qu'on fait aussi, tu vois, avec notre tête. Parfois, t'as l'impression que t'oublies tout, que, enfin, tu sais, quand tu sens que ton cerveau est un peu en surcharge et en surmenage.
Ouais. Ben, tu vois, trop souvent.
Oui, et ben le sport, je trouve, te permet de faire des resets comme
grave.
Ça.
Grave. Ouais. Moi, je me sens toujours mieux après une séance de sport.
Et
en
tu
mode,
réfléchis mieux.
En fait, j'ai l'impression que j'ai mis mon cerveau KO.
Et t'as plus de discernement.
Tu voulais parler, bah tu vas fermer ta gueule.
Voilà, exactement.
Ouais. On va aller manger là, mais je me ferais bien une petite séance une prochaine fois.
Ouais. Après le cidre.
Après le cidre, en plus. Avec la boisson, t'as encore plus d'énergie.
Next time.
On sortira vraiment KO, mais
c'est vraiment un super bon conseil ce que tu viens de donner. De boire avant de faire du sport, vraiment génial. Suivez tous les conseils
Louise
de Louise.
Obéit dans le prochain au top. C'était un conseil gratuit. J'adore. Est-ce que
chaud.
Ouais, tu sais que parce que Clément m'a fait un petit signe, tu sais que ça fait une heure qu'on parle.
Ah oui.
J'ai pas du tout l'impression donc. Comme à chaque fois, on va devoir malheureusement se dépêcher de terminer. Mais
pour aller manger des empanadas et des ceviches et boire beaucoup d'alcool.
Donc on a quand même une super excuse. Voilà. Sorry, not sorry. Mais il y a quand même deux, trois sujets que je voulais aborder avec toi. Déjà, c'est vers qui tu te tournes quand tu as besoin de conseils? Parce que même si tu as des équipes, d'ailleurs, c'est peut-être des équipes, mais comme c'est quand même un métier assez spécifique, ce qu'on fait, le fait d'être slasheuse, créatrice de contenu, que.
Slasheuse, c'est vrai que j'aurais dû dire ça.
Ouais, mais bon, le mot n'est pas très beau, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Parfois, c'est difficile, je trouve, de savoir vers qui se tourner.
Ouais.
Bon, notamment peut-être quand t'étais encore plus jeune, parce que t'avais moins d'expérience. Voilà, est-ce qu'il y a eu des personnes dans ta vie comme ça qui t'ont accompagné, en qui tu sais que tu pouvais te tourner, ou ça a été vraiment de l'auto-formation tout le long ?
Ça a été de l'auto-formation beaucoup, mais du conseil aussi énormément. J'ai toujours besoin d'être rassurée dans tout ce que j'entreprends. Et au départ, quand j'étais seule, c'était... Je me suis jamais vraiment... J'ai dû me tourner vers mes parents, mais à un moment donné où tout ça, ça peut les dépasser très vite, tu vois, c'est compliqué à comprendre notre système.
Hein.
Quand je me suis entourée d'un agent, d'un avocat, c'était vers lui que je me tournais, qui avait vraiment une expertise d'image et vraiment le recul nécessaire que je n'avais pas et la projection de qu'est-ce qui allait pouvoir se passer dans 10 ans, tu vois. Enfin, en fait, on faisait des projections comme ça sur les 10 prochaines années à venir. C'est drôle parce que, tu vois, on avait projeté que ça se passe à peu près comme ça, c'est rigolo. Et maintenant, aujourd'hui, de beaucoup plus, je me tourne auprès de Juan.
D'accord.
Parce que tout est devenu vraiment... chaque partie, je te parle du monde des médias, de la télé, parce que aujourd'hui ça devient quand même un boulot quasiment à plein temps. Tu vois, avec quelle chaîne, avec quel groupe tu travailles et avec quelle chaîne tu peux plus travailler parce que du coup tu deviens un peu
d'une
chaîne, d'un groupe. Il y a tout ça qui s'imbrique. Il y a les questions d'ordre entrepreneurial, donc les parisiennes et alors, ça roule. Mais il y a des trucs d'ordre stratégique parfois, où là, en ce moment, au moment où je te parle, vraiment, il y a une stratégie que je dois réussir à mener. Et au fond de moi, je sais de ce dont j'ai envie, mais ça me rassure d'en parler à Juan, parce que lui, il va avoir la partie, tu vois, il va avoir toute l'expertise un peu structurelle, business. Où moi, en fait, je suis un peu une créatrice. J'aime créer,
ouais.
Tu vois.
Du coup, les stratégies, pour nous, c'est abstrait. Moi, ça a peu de sens.
Mais en même temps, c'est important.
Mais oui, carrément.
Parce que si tu veux te structurer derrière et faire...
Faire ce que t'aimes.
Et bien le faire, il faut à un moment donné que tu fasses des choix. Et donc Juan m'aide beaucoup sur l'oreiller à 2h du mat, parce qu'on n'a jamais le temps de se parler avant.
C'est souvent
des discussions nocturnes.
Ouais. Bon, c'est très cool parce qu'en plus c'est quelqu'un que tu peux solliciter a priori quand tu veux, quoi. C'est pas
oui et non, parce que lui il est aussi il a un planning aussi blindé que le mien, donc parfois je te jure c'est une vraie limite, faut prendre des rendez-vous avec nos assistantes respectives pour se parler et avoir le temps d'en parler.
Ouais.
Et lui je pense que c'est pareil, tu vois, moins que moi il a moins besoin de se rassurer, mais je pense qu'on est vraiment une bonne oreille l'un pour l'autre pour avancer et sereinement, quoi.
Est-ce qu'il y a des rêves aujourd'hui que tu as encore et que tu n'as pas encore accompli ?
Oui. Oui, je pense que niveau entrepreneurial, niveau média et les émissions que je présente aujourd'hui, c'est vraiment des... Enfin, tu vois, c'était vraiment un truc que jamais je me serais imaginé à cette place-là. Donc, tout ça, je pense que je l'ai accompli. Il y a un truc que je n'ai pas accompli. J'ai l'impression que... Enfin, à chaque fois que j'y pense, ça... Ça me fait shaker les genoux, ça me fait trembler. C'est comment je vais réussir à faire tout ça avec des gosses. Ouais. Comment je vais réussir à devenir une mère de famille, pas exemplaire parce que c'est pas le but, mais juste en fait à quel moment je vais freiner la machine pour réussir en fait à continuer tout ce qui me fait vibrer aujourd'hui et que j'aimerais surtout pas arrêter, tout en continuant à élever en fait un petit être et un mini moi quoi.
C'est sûr, pas franchement, je peux pas t'aider là-dessus.
S'il te plaît, donne-moi des conseils, Louise.
Mais j'ai l'impression qu'en fait, quand tu as l'enfant en question, ça devient une évidence.
Ouais, je pense.
C'est beaucoup moins difficile, oui, c'est ça, de refuser d'autres projets ou de peut-être être moins consacré à ça parce que en fait, t'as tellement envie d'être avec ton enfant. Je le vois comme ça.
Ouais.
Donc si ça se fait pas dans la douleur, mais je voulais pas t'en parler parce que je trouve ça chiant la question à chaque fois de et du coup quand tu seras maman ou bref, mais ça m'a un peu choquée.
D'ailleurs, c'est vraiment un truc, mais depuis que j'ai 30 ans, c'est l'enfer. Non, mais genre, en fait, tous les jours on me pose cette question là.
Mais parce qu'en fait, je ne prépare jamais rien sur mes invités parce que je trouve ça cool d'être disponible à ce qu'ils ont à me dire.
Pardon.
Mais j'ai quand même tapé ton nom en me disant si jamais il y a une actu, un truc que j'ai pas vu passer. Donc j'ai tapé il y a 3 jours Laurie Tillman sur Google. Les 3 premiers résultats, j'ai failli en faire une souris, après je me suis dit non, en fait c'est enfin même te l'envoyer, mais je me suis dit non, je me rends pas là-dedans. Mais les 3 articles, c'était Laurie Tillman ne dit pas d'enfant prévu pour tout de suite. Laurie Tillman à quand l'enfant avec Juan. Laurie Tillman bientôt la grossesse point d'interrogation. Et j'étais là mais quel enfer, c'est-à-dire meuf se
je
bouge,
je ne comprends pas.
La meuf a un restaurant, une marque et journaliste, mais les 3 premiers résultats Google, c'est se préoccuper de quand est-ce que oui ou non tu seras enceinte.
Et tout l'été, je n'ai eu, et que ça soit en commentaire ou dans des articles, tout le monde pensait que j'étais enceinte. Alors peut-être parce que je sais pas, tu vois.
Ah mais c'est la projection que les gens se font. Ça se trouve ton corps n'a pas changé. C'est les gens partent du principe qu'à 30 ans il y a un bébé en route.
Mais pour eux, le corps avait changé. Alors que, oui, alors à la limite, et t'imagines, ça m'arrive à moi, genre j'ai dû prendre un peu de sein, un peu de bide, et bim, derrière, elle est enceinte, c'est sûr, et tu sais, ils se répondent les uns aux autres. Enfin, c'est très gentil de se soucier de moi, mais tu vois, il y a une partie où on partage déjà beaucoup de choses, on fait beaucoup pour le bonheur des gens qui nous suivent, mais aussi des gens qu'on a envie de rencontrer, qui passent le pas de notre porte au restaurant, par exemple. Et il y a un moment donné, en fait, ça m'appartient, quoi. Enfin, c'est mon jardin secret et j'ai juste envie de pas le partager. Et putain, ça me concerne. Et imagine, t'as un souci de santé.
Ah, mais
imagine, t'arrives pas à avoir un gosse. Cette pression, comment tu la gères psychologiquement, quoi. Je demande ça aux gens qui se posent cette question-là. Enfin, lâchez-nous la grappe. C'est pas parce qu'on a 30 ans qu'on doit devenir mère absolument. Et si je deviens maman à 38 ans comme l'a fait ma mère, je serais trop heureuse et je serais la plus fière, quoi.
Ouais. Non, mais ça, c'est vrai que c'est. En plus, ça part pas de mauvaise intention, mais.
Non, pas du tout. Alors, je dis pas ça pour toi, mais.
Non, mais pas moi. Mais je parle les gens qui commentent, tu vois. Ça part pas de mauvaise intention, mais c'est juste. Déjà, ça vous concerne pas forcément, et surtout, c'est pas la chose la plus intéressante dans ta vie. Alors que il y a encore ce côté assez réducteur, je trouve.
Et le pire, c'est que ça te fait auto-réfléchir,
j'imagine.
Et tu vois, tu dis, mais attends, mais est-ce que c'est normal du coup que je sois pas. Tu vois, tu te poses vraiment
des questions. À douter de ta propre décision avec laquelle t'es aligné, qui aujourd'hui tu veux te concentrer sur tes projets, tu vois.
Ouais.
Non, c'est faut pas faire par rapport aux autres.
Ouais, c'est ouf.
Stay strong.
Yes. Allez.
Stay strong. Bon, je vais te poser les 2 petites dernières questions du podcast avant qu'on aille manger.
Oui.
Est-ce qu'il y a une ressource qui t'a marqué, que ce soit un livre, un film, toute autre sorte de ressource que tu aurais envie de conseiller aux personnes qui nous écoutent?
Alors la ressource, je pense que je me la suis créée moi-même. Il y a eu des livres évidemment, mais je pense que c'est chouette les livres, mais je trouve qu'il n'y a rien de mieux encore une fois que l'action. Et on parlait du manque de temps dans notre vie. Et il y a peu de temps, j'ai entrepris comme toi un déménagement et une démolition et un chantier. Et en fait, je misais tout sur l'appartement dans lequel l'endroit dans lequel j'allais vivre. Et en fait, rien ne s'est passé comme prévu. J'ai vécu en merde et souci sur souci. Et je me suis mis à la méditation. Alors que j'ai toujours que la méditation, ça devait être cool et tout, mais c'était pas fait pour moi parce que de toute façon, je suis une fille d'action, donc je peux jamais m'arrêter. Et en fait, que c'est bon juste de se mettre de temps en temps, je te dis pas de le faire tous les jours parce que je le fais pas et c'est pas grave et je m'en veux pas pour ça, mais il y a des moments où tu sens que la vie et le temps te rattrapent et que t'as le temps de rien, justement c'est le moment en fait que tu dois prendre pour toi.
Ah mais carrément.
Pour juste mettre ton cerveau en pause, et c'est Dieu sait que c'est compliqué de mettre en pause. Franchement, j'ai encore du mal à le faire. Mais le cerveau, en fait, ça se muscle et ça se muscle dans les deux sens. Tu peux le muscler à faire 1000 trucs dans la journée, mais tu peux aussi le muscler à juste prendre ce temps-là pour lui laisser un peu de répit. Et pour moi, dernièrement, c'est le meilleur outil qui m'a permis aujourd'hui de me centrer et de me recentrer sur juste, en fait, je ne suis pas un être et un robot. Je suis moi et j'ai conscience de mon corps, de ma tête et de tout ce qui va se passer. Et c'est bon. Et c'est bon de le faire. C'est bon d'appuyer sur le bouton pause. Méditation. Voilà.
Conseil partagé. À méditer. Ça n'a jamais été aussi pertinent.
Ouais, c'était très long encore cette réponse. Pardon, podcasts. Je suis pas concise.
C'est là pour ça. Ouais. C'est là pour ça. On est dans une société où on va tellement vite, on a le droit parfois de prendre le temps de développer sa réponse.
Ouais.
Et la dernière question, et pas des moindres, c'est la question signature du podcast. Ouais. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie?
Prendre le pouvoir de sa vie, c'est. J'avais écrit une petite citation. Moi aussi, j'aimais bien écrire à un moment donné. J'oublie de le faire maintenant. J'avais écrit une petite citation à un moment. Je crois que ça devait être 1 an ou 2 ans après Miss France. Il y a ce que la vie t'a donné et ce que tu en fais. Tu vois, c'est cette notion d'opportunité que tu vois passer et ah, j'y vais pas, peut-être j'y vais, non, j'y vais pas. Allez, vas-y, quoi. Croque la vie à pleines dents, bouffe le monde. Il est à toi. Donc. Voilà, croire en ses rêves et saisir les opportunités, je trouve que voilà, c'est la meilleure opportunité pour pas et jamais être déçu, quoi. Moi, j'ai toujours trop peur d'être déçu dans la vie. Donc, je préfère oser. Voilà.
Très beau mot de la fin. Merci beaucoup, Laurie.
Merci,
merci pour ce super moment partagé qu'on va continuer autour de plus de bouffe. Après ce petit site qui était très sympathique. Bon, pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur toi, ce que tu fais, où est-ce que tu veux qu'on les redirige?
On peut se retrouver sur Insta et puis sinon sur les livres que je vous écris pour peut-être vivre un peu mieux en accord avec soi-même et trouver surtout la meilleure version de soi-même, même si il n'y a pas de perfection et c'est pas du tout ce qu'on prône ici. Mais voilà, les livres au top, c'est ce que j'aime vous partager. Et il y en a des 3 petits nouveaux là qui sortent.
Génial, hâte de voir ça. Et puis si jamais vous voulez en savoir plus sur nos tenues, on mettra le site de Parisienne et alors dans la barre de description.
Carrément, merci beaucoup.
Merci Laurie.
C'est trop gentil.
Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour cela, je vous dis un grand merci. C'est peut-être que l'épisode vous a plu, et si c'est le cas, ça nous fait toujours hyper plaisir de voir vos stories en train d'écouter le podcast. Vous pouvez nous taguer, @LaurieTillman et @MyBetterSelf, pour que l'on puisse le voir et interagir avec vous. C'est aussi en le conseillant autour de vous et en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast que vous permettez au podcast de grandir, et n'hésitez pas à y laisser quelques lignes nous disant ce que vous avez apprécié dans cet épisode, mais aussi ce que l'on pourrait améliorer. Cet épisode est déjà fini, mais heureusement, il y en a beaucoup d'autres disponibles sur InPower. Plus de 160 sont déjà sortis. Ils sont disponibles directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.